Il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion de découvrir des enregistrements diffusés par ProPublica d'enfants arrivés clandestinement aux États-Unis, séparés de leurs parents. Une pratique qui, fort heureusement, n'a pas duré pour cette fois. En écoutant cette détresse, je pensais à ces autres enfants migrants qui, tout près de moi, en France, sont enfermés, certes avec leurs parents, mais enfermés tout de même dans des centres de rétention durant des semaines, 13 au maximum. Une pratique dénoncée universellement et qui me fait honte. Mon esprit était donc au spleen, évidemment, et je me demandais comment nous en étions arrivés là, comment nous étions descendus si bas dans l'échelle de l'humanité sans vraiment nous en rendre compte, sans voir le monstre arriver.
L'atelier des médias, Ziad Malouf.
Laurine Ortiz est journaliste. Je l'ai rencontrée car elle vient de publier un livre dont le titre et le contenu m'ont intéressé. Porn Valley, la vallée du porno. C'est aux éditions Premier Parallèle. Elle y relate sa découverte et ses tentatives d'en savoir plus sur l'industrie du film pornographique à Los Angeles. Une industrie, elle le raconte très bien, révolutionnée et déstructurée par l'Internet. J'ai retrouvé Laurine le mois dernier dans un jardin qui surplombe Paris à l'Est et nous avons commencé à parler. Étrangement, le sujet qui nous réunissait, son livre, n'a presque pas été abordé. Ceci car j'ai commencé à interroger la jeune journaliste sur son parcours professionnel et sur la ville où elle travaille, Los Angeles. Quel rapport entre les drames que je décrivais au tout début de l'émission et ma rencontre avec Laurine Ortiz, le fait que cet entretien m'a fait comprendre à quel point nous étions parfois concentrés sur des histoires, des villes, des lieux évidents, alors que le monde change dans d'autres lieux ignorés ou négligés par la plupart. J'avais donné rendez-vous à une journaliste pour évoquer une enquête et un livre. Nous avons parlé essentiellement de son métier et de ses choix de vie édifiants. Laurine Ortiz, journaliste à Los Angeles, c'est une émission signée Ziad Malouf et Laurent Salerno.
J'ai le sentiment d'être toujours tiraillée entre deux choses, qui est d'un côté la rigueur et le sérieux extrême. Et j'ai découvert le journalisme en étant abonnée, enfin ma mère était abonnée au journal Le Monde, donc biberonnée à quelque chose d'absolument pas original, mais juste la rigueur, le sérieux, la référence ultime du journalisme français, la presse écrite aussi, donc la possibilité de lire et de réfléchir. Et je lisais le journal à l'envers, je commençais toujours par les pages débat et comment ils appelaient ça, débat et analyse. Donc il y avait ça d'un côté, et de l'autre, il y avait tout ce que j'aimais qui était toujours un peu crade, originale, la pensée qui remet tout le temps en question les choses. Donc en lisant Le Monde le matin, en général, en prenant mon petit-déj avant d'aller en cours, le soir, je lisais Bukowski, James Ellroy, des choses comme ça, très dans les bas-fonds de la société. Mais y compris la littérature classique française qui raconte les bas-fonds aussi de la société française. Je pense à Victor Hugo, qui a d'autres, même Maupassant, qui est à moitié fou.
Zola
aussi, évidemment. Voilà, en fait, je suis un peu tiraillée entre les deux choses. Moi, j'écoute du punk, du rock'n'roll, et par ailleurs, j'adore le classique, j'adore les choses peut-être bourgeoises aussi, mais peut-être j'aspire à cette culture un peu bourgeoise, mais je viens pas de là non plus. Je suis née à Clermont-Ferrand, je viens de la France provinciale, d'un côté des grands-parents ouvriers, de l'autre immigrés, donc des gens qui sont en marge en fait quand même de la société et qui en même temps par l'ascension sociale de ma mère a essayé de me mettre au centre de la culture légitime et classique en étant étudiante à la Sorbonne. Donc je pense que déjà dans ce que je suis il y a cette espèce de double identité et donc quand j'ai choisi de faire du journalisme, j'ai atterri dans l'école un peu élitiste par excellence, donc l'ESJ de Lille.
L'école supérieure de journalisme de Lille.
C'est ça. Et moi, je m'étais dit, Donc encore une fois, hyper tiraillée. Je ne veux pas être formatée. Il est hors de question que je parle comme tous ces journalistes que j'entends sur France Info. Je voyais des reportages à la télé. Je me disais, mais je ne veux pas être dans cette meute. Enfin, vous savez, on voit les politiques qui sortent de l'Assemblée et puis on voit un groupe de journalistes qui se ruent sur eux. Et je me disais, jamais je veux être parmi ceux-là. Moi, je serai celle qui sera de l'autre côté de l'Assemblée en train de parler aux femmes de ménage. Enfin, je dis ça pour reprendre un petit peu la tirade de François Ruffin récemment, mais je trouve ça hyper intéressant d'être dans un lieu hyper légitime où il y a le pouvoir et d'aller s'intéresser aux gens qui sont en marge, mais en restant dans cette enceinte.
Ce pupitre ciré ici, c'est elle. Les marbres luisants, c'est toujours elle. Elles sont partout et pourtant, elles sont absentes. C'est le propre de la propreté, elles ne laissent pas de traces. Leur travail est invisible. Elles viennent ici tôt le matin, je l'ai dit, en horaire décalé. Sous le même toit, dans la même maison, elles sont payées 10 fois moins que nous. Avec toutes des temps partiels contraints, tout le salaire minimum, tout sous le seuil de pauvreté.
Donc je me suis dit, voilà, je ne veux pas être formatée. Et en même temps, des copains m'ont convaincue, ils m'ont dit, oh, quand même, tu sais, Laurine, pour rentrer dans le journalisme, tu devrais peut-être faire une école. Je me suis dit, ok, bah, ça sera l'ESJ ou rien alors, puisque c'est la meilleure école. Donc, à l'époque, c'était en tout cas le cas. Ensuite, ça a été 2 années un petit peu difficiles, tout le temps à vouloir faire autre chose que ce qu'on me disait. C'est-à-dire, moi, ça faisait déjà belle lurette que je faisais du journalisme de terrain en régional. Donc, j'avais fait partie du Dauphiné Libéré. Enfin, j'étais correspondante locale du Dauphiné Libéré. Je suivais des petits trucs locaux, des petites histoires d'associations, faire des petits portraits de gens investis dans telle ou telle cause hyper marginale, enfin hyper locale en tout cas. Donc ça faisait un certain temps que je faisais ça. J'avais 2 petits boulots en étant à l'ESJ, dont correspondante locale pour un quotidien qui s'appelait Nord Éclair. Donc tous les jours, en sortant de l'école, moi je faisais un reportage. Et à un moment, et donc l'ESJ, visiblement, c'était pas le modèle commun. Et l'ESJ, l'été, voulait qu'on fasse de la locale, donc du journalisme en local. Et moi, je disais, mais moi, ça fait 2-3 ans que je fais ça. Donc moi, maintenant, j'ai envie de faire de l'international et j'avais envie d'aller faire un stage à Washington. Et là, ils m'ont dit, il en est hors de question, tu vas faire comme tout le monde. Enfin, c'est là que, voilà, qu'on lutte. C'était des batailles comme ça, et finalement j'ai obtenu un espèce de compromis où j'ai fait 1 mois et demi en local et 1 mois et demi à Washington. Ensuite j'ai enchaîné sur un stage à l'ONU, au bureau de l'AFP à l'ONU, à New York. Donc tout ça pour dire que là j'avais déjà mon tropisme américain que j'avais développé. Donc ça c'était 2007 et c'est justement l'année où j'étais diplômée de l'ESJ. Et donc, je sors diplômée d'école et là, j'insiste, je veux absolument... Il y avait un poste qui était proposé au service éco de l'IB. J'étais pas en spécialité presse écrite, hein, donc il y avait une chasse gardée. A priori, je devais pas avoir ce poste. Et je me suis battue en disant, j'ai fait 4 années d'économie, ils cherchent quelqu'un, je sens que j'ai exactement le profil, laissez-moi y aller. Et finalement, ils m'ont laissé candidater. Le chef du service éco à l'IB m'a recrutée, donc je suis partie à Libération dès la sortie de l'ESJ. Et ensuite, bah là, j'ai eu un espèce de mentor, puisque le chef du service éco, on s'entendait très bien, je pense qu'on avait une complicité intellectuelle. Et donc j'ai pu faire tout un tas de sujets, et notamment couvrir la crise des subprimes, qui a pris tout le monde de court et qui est arrivée en été. Tout le monde était en vacances.
Sauf les nouveaux.
Sauf les petits stagiaires nouveaux. J'étais plus stagiaire à l'époque, mais en tout cas, une journaliste pas en vacances, qui en plus y connaît quelque chose en économie et qui est en plus passionnée de ces sujets-là, c'était suffisamment rare pour que j'aie la chance de couvrir cette crise. Personne n'y comprenait rien. Le mot subprimes, c'était un ovni, même dans la planète économique. Hein, je pense que même des économistes très reconnus n'avaient jamais vraiment réfléchi à cette question-là. Donc là, j'ai pu interviewer des économistes, notamment un économiste qui s'appelle Paul Jorion, qui avait vu le truc venir et qui était à ce moment-là basé à Los Angeles. Donc J'avais commencé à parler à des gens en Californie, puisque c'était un peu l'épicentre aussi de la crise.
The subprime crisis.
Subprime crisis. Subprime.
C'était il y a 10 ans. Laurine Ortiz, qui est notre invitée aujourd'hui, venait de sortir de l'école supérieure de journalisme. Son premier poste précaire était à Libération.
Donc ma première expérience à Libération, c'était un CDD. Et c'est une période où Libération était en... au sortir d'un plan social qui avait lieu un an avant, il me semble, en 2006. Bon, de toute façon, s'il les enchaîne. Donc, ils ne pouvaient pas, à la suite de mon CDD, ils ne pouvaient pas me recruter. Donc, ils m'ont dit, accroche-toi comme une moule à ton rocher et reste avec nous. Et donc, j'avais mon bureau, j'étais dans le service économie, mais c'était l'époque de la pige permanente. Il y avait ça au Monde aussi, il y avait ça dans pas mal de rédactions. Donc à la fin de mon CDD, j'ai fait ça pendant quelques mois et puis je suis allée voir le chef du service international en lui disant « Dis-moi où il y a besoin de quelqu'un, j'ai envie de partir. » Et ça, c'était mon côté aventurière. À 25 ans, je pense qu'on l'est un peu tous dans le journalisme, sinon on n'aurait pas choisi cette profession. Donc j'ai eu pas mal d'amis qui ont fait ça à peu près à la même période. Chacun choisissait son pays en fonction de ses affinités personnelles. Moi, il se trouve que quand j'étais toute petite, j'ai vécu en Caroline du Sud. Ensuite, quand j'étais ado, j'ai vendu des planches de surf et des lunettes de soleil dans les stations balnéaires de la côte Est, sur Cape Cod. Donc ça faisait des années que je vivais à l'aventure aux États-Unis.
Laurine s'entend avec le chef de service international pour aller couvrir l'actualité de la deuxième ville la plus peuplée des États-Unis, Los Angeles.
Donc ça s'est fait logiquement. Il m'a dit bah voilà, on va pas créer un poste, ça sera pas un poste salarié, mais par contre il y a plein de choses à faire. Donc à Los Angeles, tu vas pas t'ennuyer. Et puis comme ça se passe très bien dans ton service, je pense que tout le monde sera ravi de travailler avec toi. Donc là, je me suis dit, c'est génial, c'est exactement ce que j'aime. Je vais pouvoir faire des sujets sérieux, c'est-à-dire je ne vais pas à Los Angeles pour faire Hollywood. C'est pas pour retirer le sérieux à Hollywood, mais interviewer les stars, c'était pas mon objectif. Alors en plus, il faut savoir qu'avant de partir, tout le monde m'avait déconseillé de partir à Los Angeles. Parce que Los Angeles, à l'époque, c'était... les beaufs, les gens superficiels, c'était considéré comme une ville moche, bétonisée à mort. Donc évidemment, encore une fois, là, c'est mon identité. J'aime bien faire le contraire de ce qu'on me dit. Donc quand on me disait ça, je me disais, je vais vraiment aller à Los Angeles. Du coup, ça me confirme que c'est là-bas qu'il faut aller. Mais,
c'est marrant ça, quand même. Parce que là, c'était plus de l'ordre du conseil, quoi, de ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. Pour toi, c'était vraiment le signe qu'il fallait absolument y aller, du coup. Parce que tout le monde te disait que c'était pas bien, pas sympa, pas intéressant.
Ouais, mais c'est des conseils d'une caste un peu proprette, quoi, qui aime bien... J'ai quand même conscience qu'il y a quand même eu une exception. C'était un journaliste qui travaille aujourd'hui pour Mediapart, qui s'appelle Thomas Cantaloube, et qui m'avait dit... lui, qui m'avait dit que Los Angeles était hyper intéressant. Donc j'avais quand même eu une voix dissonante. Et de la part de quelqu'un avec qui j'avais senti qu'on avait probablement des goûts en commun, qui m'avait dit non, c'est génial, c'est une mosaïque de populations différentes. Et les gens qui conseillent d'aller à San Francisco, j'avais bien compris que c'était des gens qui venaient pas forcément de mon milieu, qui avaient d'autres habitus, pour reprendre un terme bien bourdieusien. San Francisco, moi je dirais que c'est le choix des gens qui aspirent à quelque chose qui est plus de l'ordre du statut expatrié, d'une forme d'embourgeoisement, qui veulent pas être trop dérangés dans leurs habitudes et qui veulent pas être trop dépaysés. Et effectivement, quand j'ai réfléchi à ce que représentait Los Angeles quand on me l'a proposé comme destination, je me suis dit, là c'est vrai qu'il y a un manque criant. C'est en fait devenu l'épicentre de la culture américaine. Entre la Silicon Valley et Hollywood, c'est exactement, on le voit bien à travers Trump, c'est la star de télé-réalité qui devient président, et c'est pas le premier, on a eu Reagan aussi, donc il y a vraiment eu un shift, en plus avec la crise de 2008, Wall Street est tombée, on voit bien qu'aujourd'hui l'économie américaine, en termes d'innovation, dépend vraiment de ce qui se passe sur la côte ouest, et personne, quoi, pas de correspondants, pas de bureaux, pas de gens salariés, quasiment aucun média a pris conscience que la Californie est l'épicentre de l'économie américaine, qui elle-même est l'épicentre de l'économie occidentale, qui elle-même est l'épicentre de ce qui se passe dans le monde. Donc en fait, c'est pour moi, Los Angeles, c'est le Rome de l'Empire romain. C'est, aujourd'hui, c'est le centre de l'Empire. When you walk through the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon. Walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. We just gotta keep the devil way down in the hole.
Atelier des médias, nous sommes cette semaine avec la journaliste Laurine Ortiz qui, il y a 10 ans, a choisi de vivre et travailler à Los Angeles, capitale culturelle d'un monde qui l'ignore.
Donc c'était à l'été 2008, donc voilà, je me suis installée en correspondante pigiste et du coup je suis partie également pour RFI, même si alors pour le coup la radio c'était moins mon domaine. Je crois que Barack Obama n'était pas encore le candidat déclaré du parti démocrate, c'était encore Obama versus Hillary Clinton, donc j'arrive à un moment où en tout cas George Bush est sur le point de partir, et donc il y a la bataille Obama contre McCain, il y a la crise économique des subprimes, et donc moi j'arrive avec une ou deux valises, je connais personne à Los Angeles, je connais pas cette ville. Je connais Sunset Boulevard parce que j'ai dû voir ce nom dans une série ou dans un film que je n'avais pas vu en fait. Donc aucune connaissance.
Bill Wilder. C'est un film de Bill Wilder, ouais.
Ouais, c'est ça, mais je ne l'avais pas vu à l'époque. Je crois que je n'avais pas encore lu James Ellroy, à vrai dire. Alors je connaissais par la musique, je connaissais par les quelques interviews que j'avais fait d'économistes qui étaient basés en Californie. Donc vraiment, c'est tout ça pour dire que je suis arrivée sur une planète totalement inconnue et sans aucun réseau, sans aucune aide. Je suis arrivée dans le garage de copains qui étaient des Mexicains qui vivaient dans l'est de Los Angeles, dans les quartiers très populaires. Donc je suis pas arrivée comme une expat. Enfin, c'est important parce que souvent les Français qui débarquent, ils arrivent dans les hôtels sympas, ils s'installent à Santa Monica, ils sont avec les Blancs. Moi, je suis arrivée dans un garage pas aux normes chez les Latinos. Et là, je pense que j'ai été un petit peu prédestinée par mon nom, en fait. Beaucoup de gens m'ont dit « Alors ça y est, tu t'es trouvé le pseudo parfait pour être journaliste à Los Angeles, Laurine Ortiz. » J'étais là « Bah non, en fait, il se trouve que c'est vraiment mon nom, donc peut-être que c'est ça qui m'a emmenée ici. » Mais un prénom anglophone et un nom hispanique. Donc tout ça pour dire que j'ai fait mon entrée à Los Angeles par le prisme du monde latino, Chicanos, enfin donc les Mexicains américains, qui étaient en pleine ébullition parce que c'est une population qui est très à gauche, donc qui était très démocrate, et j'ai assisté à des. Ils faisaient des espèces de discussions dans les salons des uns et des autres, entre adultes, enfants, tout le monde participait et ils débattaient comme ça dans des maisons. Bah, c'était le moment des élections, donc voilà, ils réfléchissaient à savoir pour qui il fallait voter. Est-ce qu'il fallait, donc comme je le disais, Obama n'était pas encore désigné, donc est-ce qu'il fallait voter pour Hillary Clinton, qui était quand même plutôt bien vue dans le monde hispanique, Barack Obama, qui représentait aussi pour le coup quelqu'un de couleur. Donc voilà, ça débattait, c'était assez philosophique et je me suis retrouvée à suivre les élections par ce prisme-là. Donc ça rejoignait mon envie de faire du journalisme un peu par la marge, c'est-à-dire que dans les journaux, on ne s'intéresse pas à ce que pensent les gens de la banlieue mexicaine à l'est de Los Angeles. Du coup, on n'entend pas beaucoup parler du peuple américain, parce que ceux qui sont à Washington sont occupés à parler de ce qui se passe sur les écrans de CNN, ce qui se passe, si je reviens à aujourd'hui, sur le fil Twitter de Donald Trump. Mais donc, quand est-ce qu'on parle des gens ? Ça, c'est pas pour faire la populiste ou misérabiliste, mais c'est incroyable le manque de sujets vraiment journalistiques au sens des grands reporters, quoi. On s'intéresse plus aux gens. Et là, j'ai constaté ça, même si moi j'étais sur place, que j'ai vraiment essayé de faire ça à fond. On ne peut placer qu'un sujet ou deux par mois. On ne peut pas en faire un journalisme quotidien. J'aurais bien aimé réussir à faire une chronique, en fait, qui à chaque fois parle de gens un petit peu dans la lignée de ce que fait Florence Aubenas. Mais Florence Aubenas, elle a acquis une notoriété qui lui permet de faire un petit peu ce qu'elle veut. Elle a une liberté dont ne jouissent pas beaucoup de journalistes. Et moi, j'aspire un petit peu à ce type de journalisme-là. Enfin, j'aspire même complètement. Mais sans avoir la notoriété d'une Florence Aubenas ou le salaire du coup qui va avec pour être un petit peu détendu et se détacher du fil AFP ou du fil Twitter de Donald Trump. Donc pendant des années comme ça, je me suis battue, essayé de mettre un ou deux sujets. Sur un sujet, c'était très très parlant parce que c'était tout ce qui était agression sexuelle à Hollywood. Moi, je commence à entendre parler de ça en étant là-bas et en m'intéressant aux gens. Et 2009, on commence à me raconter ces histoires-là. Moi, j'essaye d'en parler auprès de mes employeurs, mais ça n'intéressait personne. Je fais un portrait d'une avocate qui s'occupe de tous ces sujets-là et à qui je demande régulièrement de me donner des infos ou de me dire s'il y a des dossiers auxquels je pourrais m'intéresser. Il se trouve qu'elle représentait, par exemple, une fille qui se disait victime de Roman Polanski. Mais en France, on ne voulait pas entendre parler de ces histoires-là. C'était les victimes d'agressions sexuelles à Hollywood, ça n'intéressait personne. Et donc, c'est pour ça que je suis contente que 8 ans après, ce soit devenu un mouvement international et mondial. Et en même temps, il y a quelque chose en moi qui me fait me dire, mais cette parole-là, si elle n'a pas été entendue et si elle n'a pas été publiée, c'est qu'il y avait des gens pour la faire taire aussi. C'est pas simplement par l'opération du Saint-Esprit qu'on n'a pas entendu des choses qui étaient dites, peut-être pas suffisamment, peut-être pas par les canaux qui permettaient d'en faire une vraie histoire qui a un impact. Mais moi, en quelques années en Californie, j'ai entendu parler de ces histoires-là qui ne concernent pas du tout que des femmes. En plus, il y a tout. Moi, les premiers témoignages que j'ai eus, c'était des garçons. Et aujourd'hui encore, je pense qu'on n'entend pas vraiment parler. Le mouvement MeToo est devenu un mouvement de femmes. Et moi, je sais que j'ai eu beaucoup de témoignages de garçons qui ont été victimes d'agressions sexuelles à Hollywood. Et on n'entend pas parler. C'est à Hollywood, mais ça peut être en France, hein, dans le milieu du spectacle. C'est assez répandu aussi. En tout cas, là-dessus, il y a encore du silence. Donc ça veut dire que le journalisme de terrain doit continuer de faire son boulot.
À l'été 2008, Laurine Ortiz s'installe à Los Angeles pour y couvrir une actualité d'une richesse hors du commun. Et pourtant, la distance, le décalage horaire, la focalisation des médias de France sur Washington, New York et la vie politique fédérale américaine font que son quotidien de pigiste est loin d'être évident.
Los Angeles, en fait, ça paraît bien loin et on continue de penser que tout se passe à Washington. Et en fait, c'est pas le cas. Donc j'ai aussi souffert d'un manque de moyens. Moi, j'étais là pour essayer de tout faire, pour m'intéresser aux subprimes, à la Silicon Valley, à tout le secteur du divertissement, des énergies renouvelables. Je commence à parler d'Elon Musk et de Tesla, etc. Il y a 10 ans, mais tout le monde s'en foutait. Il y a 10 ans, moi, j'avais senti qu'il y avait quelque chose dans ce type qu'on allait parler de lui.
Okay. Elon Musk, qui est un des fondateurs de PayPal, qui est d'origine sud-africaine et qui est donc le fondateur notamment de Tesla, mais qui a lancé toutes sortes de projets et qu'on considère un petit peu aujourd'hui comme le nouveau Steve Jobs, en référence au patron d'Apple.
C'est ce que j'allais dire. C'est depuis que Steve Jobs est mort, c'est la nouvelle coqueluche du monde des technologies. Depuis le début, il investit dans les énergies renouvelables, donc le solaire, les voitures électriques. Alors après, c'est ça qu'on peut critiquer aujourd'hui. Est-ce que les voitures électriques sont la solution à la voiture qui fonctionne à essence? Il veut aussi aller sur Mars. Enfin, il a des projets qui sont énormes et qui représentent bien cette ambition que l'on trouve du côté de Los Angeles. Ce qui est intéressant, c'est que lui vit à Los Angeles, contrairement à Steve Jobs qui vivait dans la Silicon Valley. Donc il y a aussi un shift entre la Silicon Valley qui aujourd'hui a des prix, des loyers. Enfin, il y a une espèce d'effet cocotte-minute dans la Silicon Valley qui fait que beaucoup de gens sont venus s'installer à Los Angeles. Donc il y a toute une scène technologique également à Los Angeles, qu'on appelle Silicon Beach. Bref, tout ça pour dire qu'il y a énormément de choses à faire journalistiquement à Los Angeles. Et que dans les rédactions parisiennes, moi, je trouvais pas à l'écoute. Je pense qu'on met un certain temps à comprendre. C'est sans doute en train de se passer, mais c'est pas encore tout à fait le cas.
Mais même, tu parles d'Elon Musk que tu interviewais déjà il y a 10 ans. Il y a 8 ans ou 7 ans, on pouvait déjà se dire que cette personne était une des personnes les plus importantes de la Terre. Et aujourd'hui, c'est encore une personnalité qui est modérément connue. C'est pas quelqu'un que tout le monde connaît, alors que il mérite largement le statut de personne que tout le monde devrait connaître, non ?
Ben, y a une allergie aussi à l'économie. C'est ce qui explique le monde aujourd'hui. L'économie, c'est bien plus important et ça a bien plus de pouvoir qu'une petite loi, un petit amendement que va signer Macron ou une ordonnance de Macron. Enfin, et il y a une disproportion dans les médias à parler énormément de choses qui en fait changent pas la face du monde, mais qui ont l'étiquette politique, donc c'est important. Alors que Elon Musk, ce que fait alors après, c'est pas que des individus, mais les mouvements, les tendances économiques, c'est ça qui gouverne le monde en réalité. Donc il faut pas faire l'économie et aller chercher les logiques économiques, et moi c'est ce que j'ai voulu faire sur n'importe quel sujet. Et un jour je me finis par m'intéresser à l'industrie pornographique, mais je l'ai pris sous cet angle là aussi, en fait.
Vous écoutez l'Atelier des médias. Cette semaine, notre invitée est Laurine Ortiz, journaliste française basée à Los Angeles, aux États-Unis, depuis 10 ans. Nous revenons sur son parcours à l'occasion de la parution d'un livre enquête, Porn Valley, consacré à l'industrie du film pornographique à Los Angeles. Un livre que nous allons évoquer plus longuement à la fin de l'émission.
Donc en fait, je sonde pendant plusieurs années cette ville et cet état. Donc je comprends plein de choses et je suis un peu la tête dans le guidon. Donc je passe 3 ans, de 2008 à 2011, à Los Angeles, et à traiter différents sujets, dont le porno, mais parmi d'autres. Sachant que tous les sujets étaient extrêmement importants pour moi. Enfin, je me suis dit, mais là, c'est là que je découvre que vraiment Los Angeles est au cœur de tout, de beaucoup de choses. Donc je me rends compte qu'il y a effectivement les technologies qui arrivent, la logique impérialiste de certaines entreprises. Je vois Netflix qui monte, mais personne n'en parlait en France. Donc moi, Netflix, je suis abonnée 2008-2009, donc à Los Angeles. C'est le Netflix old school qui t'envoie des DVD chez toi, qui n'était pas du tout dans le streaming. Mais j'avais compris qu'ils avaient un système hyper efficace, qu'ils avaient déjà fait la razzia, ils avaient fait fermer tous les loueurs de DVD, tout ça. Enfin, déjà, ils avaient complètement détruit tout ce système de location de vidéos, de DVD, etc. Donc je m'étais dit, waouh, il y a déjà une puissance économique et une ambition derrière cette boîte. Quand ils ont commencé à, parallèlement au DVD qui t'envoyait chez toi, à faire du streaming, enfin, j'ai assez vite compris que ça allait devenir énorme. Et voilà, et en étant à Los Angeles, chaque chose est comme ça. C'est-à-dire que tu vois Netflix d'un côté, tu vois Tesla de l'autre, tu vois Facebook, tu vois Twitter. Et tu te dis, mais en fait, tout ça, c'est ce qui gouverne nos vies, quoi. Et ça va faire que empirer, entre guillemets, hein, qu'on soit pour ou contre. J'ai quand même développé un esprit critique tout en étant passionné de ce qui se passe là-bas et de cette ville. Le porno, parce que je voyais bien, je m'étais intéressée au sujet, je l'avais, pareil, rangé dans un tiroir, mais je voyais que parallèlement, le sujet ne faisait que devenir de plus en plus important et qu'il était de plus en plus rare de trouver un jeune qui ne soit pas en train de regarder du porno tous les jours. Enfin, en fait, les choses devenaient mainstream. Tout ce que j'avais pu observer...
Grand public, pour ouais. Traduire. Non, mais...
Ouais, c'est ça. Tout ce qui était... a priori propre à Los Angeles ou propre à la Californie ou par extension propre aux États-Unis devenait en fait par extension propre à mon pays, la France et aux habitudes de consommation. Donc je reste à Los Angeles pendant 3 ans avec toutes ces idées-là, tous ces sujets-là. Ensuite, je suis recrutée sur la côte Est, donc je vais travailler à Washington, à l'AFP. Il se trouve que... Par hasard, je me retrouve à vivre chez la sœur d'un auteur américain connu qui s'appelle James Baldwin, qui a fait l'objet d'un documentaire récemment par le président de la FEMIS, Raoul Peck. Donc je vis chez la sœur de James Baldwin, je découvre du coup ses livres. Encore une fois, comme à Los Angeles, je découvre la ville de Washington par le biais d'une famille noire américaine, de gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, même si James Baldwin a été un écrivain très célèbre et qui a rencontré beaucoup de succès, mais sa sœur, qui avait 80 ans quand je vivais chez elle, n'avait pas beaucoup de moyens. Son neveu, donc, qui était mon colocataire, pareil, une vie un peu bohème. Donc moi, je découvre Washington par le biais de la culture noire, par le biais des livres de James Baldwin, qui était donc un auteur noir américain, homosexuel, qui a fui le racisme et probablement l'homophobie en se réfugiant à Paris dans les années peut-être 50-60. Donc là, je découvre ce que c'est que d'habiter chez un écrivain, de raconter des choses par le biais de la fiction, mais qui ne sont pas vraiment de la fiction, puisque ce qu'il raconte dans ses bouquins, c'est quand même sa vie. Par ailleurs, je rencontre aussi à Washington un auteur qui s'appelle George Pelecanos, qui est scénariste sur la série The Wire. Donc je découvre vraiment Washington par le biais de ces auteurs à la fois connus et qui racontent les marges de la société américaine, encore une fois.
The Wire, qui est une référence en termes de série et de série presque documentaire, c'est-à-dire qu'elle raconte des réalités, etc.
Donc du coup, je rencontre George Pelecanos qui me fait visiter Baltimore dans les pas de The Wire. Donc on passe toute une journée dans sa Jeep, entre le port, les zones industrielles de Baltimore. Voilà, et en fait, c'est l'exigence journalistique appliquée à la série télé. Donc c'était complètement nouveau. La série, en fait, a pour propre de pouvoir raconter les choses de cette manière un peu chronique du quotidien, de faire des choses, en fait, hyper journalistiques. Mais encore faut-il que des auteurs se saisissent de ce format pour faire ça. Et en fait, à ce moment-là, j'étais journaliste à l'AFP, et comme on l'a peut-être compris, enfin, moi, j'aime bien le journalisme de terrain et écrire des articles, des reportages, si possible, un peu longs, même si j'ai pas un culte du long cours, de la prise de tête. On peut aussi écrire des trucs super en 2 pages. Hein. Mais la dépêche AFP et suivre ce qui se passe, et être à Washington comme ça, au cœur du côté institutionnel. Donc en fait, paradoxalement, je me suis retrouvée dans un journalisme hyper institutionnel.
Communicationnel aussi, beaucoup, ouais, très voilà. Dirigé, quoi.
À transmettre des communiqués de presse qui venaient du département d'État américain ou de la Maison Blanche, ou ce qui n'est pas inintéressant, mais du coup je me suis dit, bah, puisque je suis un petit peu frustrée du journalisme tel qu'il est, emprisonné dans cette logique économique, et c'est pas que la logique économique, c'est aussi la circulation circulaire de l'information, où on fait ce que les autres font et on a du mal. Le
suivisme, beaucoup.
Le suivisme, la peur de la prise de risque. Donc tac tac, The Wire. Je parle avec George Pelecanos en étant dans sa Jeep et en faisant le tour de Baltimore. Et je fais part de mes questionnements existentiels à Georges Pelecanos, qui me dit, qui m'encourage en fait, qui me dit, bah écoute, moi c'est à ton âge que j'ai arrêté le job alimentaire pour me consacrer à l'écriture de romans sur Washington. Donc il me dit, je sais que c'est pas des choix faciles, mais moi j'encourage ce genre de choix dans la vie, c'est risqué, mais c'est à ton âge que tu peux le faire. Donc à ce moment-là, j'ai une copine qui me dit, à la FEMIS, ils viennent d'ouvrir une section création et écriture de scénarios de série. Donc je me dis, bon, bah, j'ai les encouragements de Georges Pelecanos, qui est l'un des scénaristes de ma série préférée. Par ailleurs, la FEMIS ouvre une section, et je me disais, on est obligé, c'est pour ça que j'avais fait l'ESJ pour rentrer dans le journalisme. Je sais qu'en France, et globalement dans le monde, il y a des passeports à avoir quand t'as pas de réseau ou des gens pour te faire entrer dans certains milieux. Bah autant aller faire l'école et la formation qui va bien, quoi. Donc je m'inscris un peu par hasard. J'étais à New York, je fais ça à distance, je fais un dossier, je suis admissible. Ensuite, donc je prends l'avion, je viens à Paris, je passe les épreuves écrites. Je passe l'oral et en fait, enfin, tout ça finit par mon admission à la FEMIS. Donc là, je me dis, bon, bah ok, je déménage, je quitte New York, je quitte les marchés financiers et le journalisme, en tout cas temporairement, et je fais cette formation de création de séries.
Pendant un an, Laurine Ortiz suit donc une formation à la FEMIS, l'école publique de cinéma basée à Paris. Elle travaille en particulier sur un scénario mêlant prostitution et Afrique. Après son diplôme, elle renoue avec le journalisme, mais reste à l'affût de projets liés à l'univers des séries. C'est en tentant de travailler pour la série The Deuce de la chaîne HBO qu'elle commence l'enquête qui va la mener à écrire son livre Porn Valley.
Je fais un retour à Los Angeles parce que je travaillais pour des gens dans des magazines et on me propose de faire le portrait d'un acteur. Donc je vais à Los Angeles, je fais le portrait de cet acteur. Par ailleurs, je rencontre quelqu'un à HBO qui avait été un intervenant lors de notre programme à la FEMIS. Il me dit « Ah, bah tu sais, toi qui aimes The Wire et les gens qui est en contact avec les gens qui ont travaillé dessus, tu sais qu'on vient de leur donner le feu vert pour leur nouvelle série The Deuce. » Donc là, moi, je fais ni une ni deux. J'envoie mon CV à Georges Pelecanos. Je lui dis, il paraît que vous commencez à bosser sur The Deuce. Ça m'intéresserait de travailler dessus. Il se trouve que j'ai fait des reportages sur l'industrie pornographique il y a quelques années, donc je connais un petit peu ce milieu. Il me dit, bah écoute, envoie ton CV à la productrice. Enfin bref, je commence à passer le système classique de recrutement. Donc on fait une première interview sur Skype, ensuite ils me font venir à New York, et puis bref, ils m'embauchent. Par acquis de conscience professionnelle, je vais enquêter dans le milieu porno pour être au plus près de ça et savoir ce qui s'est passé depuis mes premiers reportages. Donc j'y retourne en 2016, à ce moment-là. Et là, je comprends que tout a changé, que l'arrivée d'Internet, la logique capitaliste qu'on a pu voir se développer chez Google, Apple, Twitter, enfin, donc ce qu'on appelle les GAFA, a également tout frappé cette industrie-là. Donc là, je me suis dit, bon, va falloir creuser. J'y suis pas allée de manière hyper naturelle parce que le porno, c'est pas prestigieux. Dans ma vie privée, qu'est-ce que ça va impliquer? Enfin, ça veut dire, va falloir que je dise à mes parents que je fais ça, que je vais passer un an dans le porno avec des gens qui... Faut se familiariser soi-même avec le sujet. En tant que fille, on n'est pas à l'aise, mais bon, je pense qu'en tant que garçon non plus, mais c'est l'un des produits culturels les plus consommés au monde. C'est autant consommé qu'une série sur Netflix, quoi. Donc là, je me suis dit, il y a un impact sur l'imaginaire de toute une génération qui va être énorme. Et par ailleurs, j'ai pu constater la surenchère et la violence des pratiques dans ce secteur. Donc ce que consomment les gens, c'est d'une violence inouïe. Donc je me suis dit, bon, bah, en fait, il faut s'y intéresser. Et pour comprendre, il faut s'y plonger entièrement. Il faut le faire, à la David Simon. Il faut le faire de cette exigence journalistique. Pour reprendre les termes de Georges Pelecanos, c'est à mon âge que je peux me donner à fond dans un sujet et y aller sur mes propres moyens. La presse écrite n'a plus les moyens, donc vraiment, faut tout donner, c'est maintenant. J'ai senti que j'avais des touches avec des gens qui me faisaient confiance. Ils étaient prêts à me faire rentrer dans leur univers, dans leur intimité, sans trop y aller, parce que j'avais pas envie d'aller raconter le moindre détail de la vie privée des gens. Il y avait une espèce de distance à trouver malgré tout en étant toujours avec eux. Mais en tout cas, moi, pour moi, ça a impliqué d'arrêter tous les autres sujets et d'être dans le porno du matin au soir, et que je puisse saisir chaque opportunité. Si quelqu'un me disait, bah tiens, t'as qu'à venir boire un verre, demain on se retrouve. Tiens, on va à un karaoké, là tu devrais venir. On est entre nous, ça sera l'occasion pour toi de parler à des gens. Ou tiens, on a une soirée chez Machine, c'est la patronne de telle boîte, tu vas voir, c'est une sacrée nana, tu vas rencontrer plein de gens. En gros, il fallait que je sois disponible tout le temps pour la moindre fête. Et puis, par ailleurs, tout en ayant ce côté léger, il fallait aussi mener une enquête, ouvrir des portes chez des gens qui n'ont pas forcément envie de parler. Donc, il y avait aussi tout cet aspect-là d'avoir des rendez-vous dans les boîtes et parler business, quoi. Donc j'ai fait...
Les boîtes, pas les boîtes de nuit, hein, dans les entreprises. Ouais.
Les sociétés de production, où est le nerf de la guerre. Et là, il faut décrocher des entretiens, trouver les bonnes personnes, paraître inoffensif tout en paraissant être pas complètement... inexistant, ou pas suffisamment important pour qu'il t'accorde du temps et suffisamment de temps pour qu'on puisse aborder bien le sujet, mais en même temps que tu sois pas paraître inoffensif, c'est important en journalisme, parce que les gens se méfient pas trop. Si j'étais arrivée avec le gros matos CNN et qu'ils savaient qu'il y aurait 60 millions de personnes qui verraient le sujet, je pense que ils auraient développé un discours beaucoup plus huilé, marketé. Là, j'ai quand même la chance d'avoir eu beaucoup de gens qui étaient dans une espèce de sincérité, des discours assez peu calculés.
En 2015, à quelques jours de Noël, l'air s'est rafraîchi du côté de Canoga Park. Depuis ma dernière visite, le paysage économique s'est encore assombri. Le préservatif a fini par devenir obligatoire dans le comté de Los Angeles, le plus peuplé du pays, qui abrite la Porn Valley. Plus menaçant que le préservatif, une société ultra-secrète a fauché le secteur à coups de contenus piratés et gratuits via les tubes et autres hubs. YouPorn, Pornhub, RedTubes, etc. Ces hommes d'affaires sans visage accumulent les voitures de sport, tandis que, parmi les acteurs et actrices, de tels signes de richesse semblent avoir disparu. Une poignée de vétérans entrevoit alors une sorte d'apocalypse. Ils n'ont plus rien. Les entrepreneurs du net se sont emparés de tout. En ce mois de décembre, ils décident de passer à l'acte. Je découvre l'insurrection qu'ils fomentent alors que je viens d'être recruté pour une série télé américaine qui ambitionne de raconter les débuts de l'industrie du X.
À partir du moment où j'ai trouvé l'endroit à Los Angeles qui permettait d'aller raconter l'envers du décor, que par le porno j'allais raconter beaucoup de choses et que j'allais pouvoir faire se rencontrer cette narration inspirée des codes de la fiction et en même temps que ça allait raconter que le réel et le vrai réel, quoi, c'est-à-dire pas l'Amérique qu'on nous vend et qui est ce produit, le rêve américain qui nous est envoyé à travers des figures comme Elon Musk, Mark Zuckerberg. Ça, c'est les winners, quoi, c'est les mecs blancs. C'est ceux qui ont de l'argent, c'est ceux qui ont eu des éducations de privilégiés, c'est ceux qui sortent de Stanford ou de Harvard. Mais l'Amérique, et on le voit bien avec Trump, bah c'est pas que les gens qui sortent de Harvard et c'est pas que les mecs blancs, quoi. Derrière, il y a des noirs, des gens, des filles, des gens qui sont pas diplômés, des gens qui travaillent pour $1,000 par mois dans n'importe quel magasin ou n'importe quel garagiste. Ou, enfin, la majorité, l'immense partie de la population américaine vit autre chose que ce que nous, on en voit. Un jour, on m'a dit... en 2016, et c'est peut-être ça qui a été vraiment l'ultime déclic pour aller écrire un livre sur cette Porn Valley. On m'a dit « Ah, mais tu es journaliste et tu n'es pas sur Twitter ?» Et c'est un journaliste qui m'a dit ça, de Libération. Et là, je me suis dit « Effectivement, je comprends bien l'intérêt d'être sur Twitter, de cultiver une forme de notoriété, de faire tourner, de partager ce qu'on a écrit soi-même. » Et donc du coup, c'est un entre-soi permanent. Moi, je peux pas passer mes journées à lire ce que mes collègues racontent ou à partager mes propres articles. Il y a 80% des gens qui sont pas sur Twitter. Mais du coup, de quel côté on est quand on est journaliste ? Moi, je suis du côté des 80% des gens qui sont pas sur Twitter. En fait, à un moment donné, il faut faire un choix. Et donc, cette Porn Valley qui représente pour moi ce que sont les gens, les Américains, qui sont donc pas les gens qui sortent de Stanford ou de Harvard. C'est hyper intéressant parce que malgré tout, c'est justement les gens qui rêvent de vivre leur rêve américain. Donc ils rêvent de gagner de l'argent. Pourquoi ils n'y auraient pas droit ? Puisque c'est ça l'idéal aux États-Unis, c'est avant tout l'argent. Comment devenir riche ? Ça, c'est vraiment la question existentielle d'un Américain... on va dire moyen, c'est comment gagner de l'argent. Donc le porno, c'est une façon de gagner de l'argent. On ne fait pas ça par plaisir, même si, encore une fois, ça fait partie de cette logique hollywoodienne où ce qu'on voit à l'écran n'est pas ce qui est vrai. C'est-à-dire que les hommes et les femmes qui jouent dans ces films jouent des rôles, donc on peut penser qu'ils font ça par plaisir, et c'est évidemment pas le cas. On fait ça pour gagner de l'argent et pour essayer de devenir quelqu'un. Le capitalisme américain ne fait pas que des gagnants, et donc voilà, la plongée dans la Porn Valley, c'était une façon de raconter tous ces paradoxes.
Journaliste à Los Angeles, c'était une émission de Ziad Malouf et Laurent Salerno. Merci à Laurine Ortiz pour sa disponibilité et à l'équipe des éditions Premier Parallèle qui publie Porn Valley, le livre de Laurine Ortiz. L'atelier, c'est aussi Camille Deloche, Simon Decreuse, Mathilde Saliou et Léo Caravagna. Salut à toutes et à tous.